Et une nouvelle édition de l'économie en question. Nous parlons ce matin de fiscalité, non pas du montant de l'impôt, mais plutôt des moyens nombreux, parfois grossiers, souvent ingénieux, licites et illicites, de le contourner. L'évasion fiscale, de l'optimisation à la fraude est aussi vieille que l'impôt, sans doute, mais elle a pris ces dernières décennies avec la mondialisation, avec l'expansion de la finance internationale, avec les progrès de nouvelles technologies aussi, des dimensions si extraordinaires qu'elle en vient à déséquilibrer les économies des États, suscitant divers scandales et l'exaspération de l'opinion publique, c'est-à-dire des citoyens contribuables. La communauté internationale a commencé à réagir, l'OCDE par exemple, nous allons y revenir, ou l'Union européenne, depuis le 1er janvier de cette année 2017. Les pays membres doivent communiquer les accords fiscaux préalables transfrontaliers qu'ils signent avec les entreprises, en clair celles qui choisissent de s'installer dans les pays les plus accommodants, tout en réalisant leurs bénéfices dans les autres. Il faut bien sûr saluer ces initiatives, mais il reste beaucoup à faire. Les gouvernants ont-ils pris les mesures qu'il fallait pour lutter sérieusement contre l'évasion fiscale? Ont-ils des moyens suffisants? Les chiffres les plus couramment avancés, 60 à 80 milliards d'euros, par exemple, seraient perdus en France. Sont-ils les bons et connaît-on vraiment le montant de ce qui, par définition, ne se fait pas connaître? Eh bien, on fait le point sur tout cela avec mes trois invités. Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, où en est-on? C'est donc notre titre ce matin et nous recevons Dominique Plion, professeur d'économie financière à l'Université Paris 13, membre du conseil d'administration d'Attac France, Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, et Yves-Jacquin Deperre, économiste, auteur du Stimulant la réconciliation fiscale. C'était paru chez Odile Jacob l'an dernier, je crois. Enfin, en fin d'émission, la chronique de Marie Bellange, journaliste aux Échos, venue avec un chiffre, comme d'ailleurs mes trois invités, avec cette semaine en plus un exercice obligé, on verra lequel. Évasion, fraude, optimisation fiscale, déjà il faudrait peut-être s'entendre sur les définitions, tout le monde n'a pas forcément les mêmes. Et puis sur les chiffres, je l'ai dit, 60 à 80 milliards d'euros, c'est le chiffre que l'on rencontre le plus souvent. Ce n'est pas celui de tout le monde d'ailleurs, ce seront donc les milliards d'euros qui seraient soustraits chaque année au budget public, entendez, à des investissements ou à des financements qui seraient bien nécessaires dans le social par exemple, ou dans la transition écologique. Pour l'Union européenne, on parle de 1000 milliards d'euros pour les 28 États. C'est un rapport indépendant qui a sorti ce chiffre, mais je crois qu'il est contesté par la Commission. En réalité, nous dit Pascal de Saint-Amand, directeur fiscal à l'OCDE, c'est bien difficile, aucune estimation n'est tout à fait exacte, tous les chiffres sont faux, c'est clair. Commençons par des définitions, Yves-Jacquin Deperre.
Oui, je crois qu'il est très important de situer, enfin, en fait, il y a une petite typologie à faire. Il y a quatre situations très différentes, peut-être un peu plus, mais quatre principales. D'abord, on a de véritables mafieux, je pense par exemple au carrousel de TVA, qui est une des principales fraudes au niveau européen, et c'est une fraude qui est réalisée par des mafias, ce sont des gangsters. Et il ne faut pas tout mélanger, puisqu'à la limite, à l'extrême inverse, on a le redressement fiscal ordinaire. Disons que toute personne qui paye beaucoup d'impôts est quand même susceptible d'être l'objet d'un redressement qui n'est pas forcément dramatique. Il y a toujours des points qui se discutent, il y a des divergences d'interprétation, il y a des divergences d'estimation. Donc il faut quand même faire très attention de ne pas confondre dans une même masse, ce qu'on a trop tendance à faire, les inexactitudes raisonnablement normales, chacun peut avoir une vision différente, et puis des actes criminels. Ensuite, troisième point, il y a l'optimisation légale. Et il faut avoir en tête qu'en France, le principal moyen d'optimiser légalement son impôt, c'est de quitter la France. C'est pour ça qu'on peut parler aussi du mot d'évaporation fiscale. Ce sont les grands contribuables qui nous quittent. Et il faut qu'on ait en tête que chaque grand contribuable qui s'en va, c'est un peu plus d'impôts à payer pour les autres. Et enfin, dernière chose, je crois, c'est l'effet Internet avec ce changement de structure de l'économie qui a des conséquences fiscales et la part de concurrence déloyale qu'il peut y avoir dans des agents Internet qui n'apportent pas seulement de la productivité en plus, mais qui se débrouillent pour payer beaucoup moins d'impôts que les autres.
Voilà pour les définitions. Merci Yves Jacquin de Père. Du côté de Attac, hein, je vous ai présenté comme ceci aussi Dominique Plion, professeur d'économie financière. On est très sévère sur tout cela.
Oui, on est très sévère et je suis d'accord pour dire qu'en effet, il y a une grande diversité de formes d'évasion fiscale. On parle aussi de la fraude. On peut distinguer ce qui est strictement illégal, la fraude, et ce qui apparaît peut être considéré comme légal, mais illégitime, c'est-à-dire qui correspondent à des opérations qui sont vraiment à la limite de ce qui est acceptable, disons, pour les citoyens qui, eux, payent leurs impôts. Et là où je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'il y a une très, très grande partie de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, qu'on appelle l'optimisation fiscale d'ailleurs agressive, c'est utilisé par des tas d'organisations, oui. Et qui est, à la limite de ce qui est acceptable, c'est-à-dire de dépenser une énergie considérable à l'aide de spécialistes, des fiscalistes, juristes, etc. Parfois, des acteurs comme des banques proposent leurs services dans ce domaine pour essayer d'éviter, de développer l'évitement fiscal, pour employer un autre terme que l'évasion fiscale. Et ça, c'est quelque chose qui, quand même, doit être sérieusement contrôlé et éventuellement sanctionné parce que ça contribue à l'évaporation fiscale dont vous parliez. Ouais. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux raisons pour lesquelles nous devons, nous, économistes, nous, citoyens, nous intéresser et éventuellement nous battre contre cette évasion fiscale. C'est la première raison, bien sûr, c'est le manque à gagner pour les finances publiques dans une période où on nous dit que finalement, il y a des tas de dépenses qu'il faut réduire parce qu'il n'y a pas assez de recettes. Autrement, on risque d'avoir des déficits excessifs. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est ce que j'appellerais l'injustice fiscale. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de citoyens qui ont le sentiment, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, qu'il y en a beaucoup d'entre eux payent l'impôt parce qu'ils n'ont pas le choix d'ailleurs de faire autrement. Et souvent, d'ailleurs, ils le font en l'acceptant. Mais il y a quand même un sentiment d'injustice qui fait qu'il y a un discrédit de l'impôt. Et il y a aussi une baisse, et c'est relevé très clairement dans les enquêtes, il y a une baisse du consentement à l'impôt, à l'imposition dans notre société depuis un certain nombre d'années. Qui est parce qu'il y a un
véhicule. Il vient de ce sentiment d'injustice.
D'injustice. Et ouais. Ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être combattu parce que c'est un des piliers, finalement, de notre société, l'impôt, hein, de l'état de droit, qui là est en ce moment sérieusement ébranlé par l'évasion fiscale.
Et tout le monde n'a pas les moyens de se payer, entre guillemets, un avocat fiscaliste qui optimisera vos impôts. Donc évidemment, on voit qui cela s'adresse en priorité. Si on avance un petit peu, on a dit des choses sont faites quand même. On récupère pas mal d'argent aujourd'hui, notamment en France, hein, qui a pris des dispositions. Le CDE a calculé qu'on avait récupéré, je crois, de l'ordre de presque 8 milliards d'euros, 7 milliards et demi depuis 2014, donc des avancées très nettes, même si c'était en décembre dernier, le Conseil constitutionnel a censuré quelques éléments de la loi Sapin 2, référence à celle contre la corruption de Michel Sapin de 93, qui aurait obligé les multinationales à communiquer publiquement leurs comptes, pas seulement aux administrations. C'est contesté par beaucoup d'organisations. Je vous vois, Dominique Plion. Que peut-on dire sur tout cela de votre côté, Xavier Dambo?
Enfin, alors, ce qu'on peut dire, c'est il y a quand même une chose importante à rappeler, c'est que l'évasion fiscale, l'évaporation fiscale, la fraude fiscale, c'est vieux comme la fiscalité. Donc ça remonte quand même. Et qu'il y a des formes très anciennes aujourd'hui qui persistent. Par exemple, il y a une fraude qui est très importante dans tous les pays développés, qui est la fraude à la TVA. Avec en particulier les transactions en liquide. Alors, c'est tellement important et installé dans le paysage que même parfois dans le code des impôts...
On finit par l'oublier.
C'est pas qu'on finit par l'oublier, c'est qu'on finit par même l'intégrer et le compenser. C'est-à-dire que c'est presque devenu une habitude tolérée, ou en tout cas, on a établi une espèce de frontière entre... Ben, ça sert à rien d'essayer de la traquer, cette fraude, et donc on l'accepte, on l'estime, et puis on va la compenser par, par exemple, une baisse de fiscalité ailleurs sur ceux qui pratiquerait moins. Par exemple, si vous êtes certifié par un expert comptable, par exemple, on va vous accorder un crédit d'impôt qui correspond au fait que vous avez accepté de faire vérifier votre comptabilité par un expert comptable, et donc que probablement vous avez moins triché que celui qui l'a pas fait certifier par un expert comptable.
Donc on vous en félicite quand même.
Oui, mais c'est pour vous montrer quand même que c'est quand même profondément inscrit. Alors il y a un aspect très important, et on va en parler dans les mesures qui sont prises, c'est que en fait c'est la mondialisation et la globalisation qui ont conduit à faire émerger des formes d'évasion fiscale nouvelles. Certaines sont basées sur la technologie comme Internet, mais fondamentalement, Ce qui se passe, c'est qu'il y a des fiscalités qui sont différentes d'un pays à l'autre. Il y a libre circulation des individus, des capitaux et des marchandises. Et donc, eh ben, il est effectivement tout à fait possible d'utiliser ces différences de fiscalité pour faire des montages qui sont parfois horriblement complexes, mais voilà, qui sont extrêmement rentables.
Et
jouer d'un pays à l'autre en ayant des objets juridiques multinationaux qui se prêtent entre eux, qui se transfèrent des propriétés, qui se transfèrent des prestations. Et ça, ça permet à des entreprises de pratiquer de l'évaporation fiscale à grande échelle. Ça permet aussi parfois à des individus de pouvoir transférer leur fortune à l'étranger et d'en bénéficier dans un autre pays. C'est l'intersection entre la fiscalité, qui est quand même cette expression sur laquelle s'est bâtie la souveraineté nationale, et la globalisation, qu'on trouve aujourd'hui un coin, en tout cas, qui a été béant ou qui reste béant. Et je pense que le message qu'il faut passer, c'est que si on veut traiter correctement ces questions d'évasion fiscale, c'est des coopérations internationales qui vont permettre de les traiter.
Raison pour laquelle, pardon, et Jacques Hindepert, juste pour situer les choses et les faits pour nos auditeurs, la directive fin 2015 adoptée par l'Union européenne à la suite de l'affaire LuxLeaks, on se souvient des excès de fraude fiscale, d'évasion vers le Luxembourg, on pourrait parler aussi de l'Irlande, des Pays-Bas, de la Belgique et de quelques autres, la petite île de Madère notamment. Raison pour laquelle donc cette directive a été adoptée très rapidement d'ailleurs, demandant effectivement, et sous la pression des opinions publiques, demandant de corriger les défauts dont vient de parler Xavier.
Oui, alors je trouvais qu'il serait peut-être intéressant de replacer, dans la continuité de ce qui a été dit, finalement, d'un côté, attaque a mis l'accent sur les problèmes de fraude, et d'un autre côté, pour l'OFCE, on nous a attiré sur le problème de la mondialisation, du passage des frontières et de l'évaporation fiscale. Deux grands aspects. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de regarder sous l'angle de ce clivage ce que proposent aujourd'hui les candidats, puisque notre actualité, c'est l'élection présidentielle. Et alors, de ce point de vue-là, c'est assez amusant, parce que si on regarde du point de vue de l'évaporation fiscale, quelque part, je vais un peu vous choquer, mais on peut dire que les candidats Fillon et Macron proposent quelque chose pour calmer l'évaporation fiscale. Fillon, carrément, en supprimant l'ISF, parce que s'il n'y a plus d'ISF, il y a moins de contribuables qui partiront à l'étranger, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Et Macron, il prend grande conscience du problème. Il en parle beaucoup des départs des fortunes. Et il prend une solution que je préfère, d'autant que c'est celle que je préconisais dans mon bouquin, qui est de continuer à taxer à l'ISF sans rien changer la fortune immobilière, parce qu'elle ne peut pas s'en aller. Et en revanche, de ne plus taxer le capital des entreprises. Parce que taxer le capital des entreprises, ça aboutit à ce que les grands actionnaires, c'est ce que j'ai dénoncé il y a un an, ils partent tous de l'autre côté de la frontière, ils encaissent leurs dividendes à l'étranger, ils ne payent plus rien en France et le pays s'appauvrit et perd de la puissance économique.
Avant d'aller sur les autres candidats, réaction de Dominique Pillon, qui brûle de vous répondre.
D'accord. Premièrement, je ne pense pas que l'ISF, son existence soit la cause, soit la cause principale de l'évasion fiscale. Je crois que c'est et je pense que ça se situe bien ailleurs, et c'est ce que disait là, je rejoins aussi Xavier Tambour, entre nos deux approches, il n'y a pas de différence. C'est l'évasion fiscale est l'enfant de la mondialisation et même je dirais la mondialisation libérale, c'est-à-dire le laisser-faire des gouvernements en matière de circulation, notamment du capital. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai problème dans cette mondialisation là. Je voudrais revenir un tout petit peu parce qu'on parle des propositions.
Vous n'avez pas répondu sur l'Union européenne tous les deux là.
Oui là, et on parle de propositions. Je pense qu'il faut quand même attirer l'attention de nos auditeurs sur deux décisions assez choquantes du Conseil constitutionnel qui ont été prises et qui vont à l'encontre de la lutte contre l'évasion fiscale. Il a été censuré par le Conseil constitutionnel en décembre dernier le reporting public des banques et des entreprises transnationales. C'est quoi le reporting? C'est le fait que chaque année, c'était inclus dans la loi Sapin, la Sapin 2 contre la corruption, elles doivent rendre compte, c'est-à-dire elles doivent publier leur activité à l'étranger, dans leur filiale à l'étranger, et donc dans les paradis fiscaux. Ce qui est un moyen très efficace, évidemment, de surveiller, mais aussi d'organiser la pression sociale sur ces entreprises qui pratiqueraient l'évasion fiscale. Et la deuxième mesure qui a été censurée, c'est la Google Tax, comme on l'a appelée, c'est-à-dire le fait de taxer spécifiquement un certain nombre d'acteurs qui, par leur comportement et par le secteur d'activité dans lequel ils sont échappent extrêmement facilement
La liberté d'entreprendre.
Et voilà, alors là, il y a vraiment quelque chose qui est choquant, c'est que pense qu'ils reprennent l'argument du patronat, je suis désolé de le dire, c'est qu'en fait, il y a aussi la lutte contre l'évasion fiscale et d'une certaine manière, la défense des finances publiques. Mmh. Et là, vraiment, je ne comprends pas comment le Conseil constitutionnel a pu prendre une telle décision. En tout cas, en tant que citoyen, je suis personnellement choqué.
Avec deux mesures phares quand même de cette loi Sapin 2 qui ont été prises et acceptées, protection des lanceurs d'alerte, c'était important.
Alors, on pourra y revenir.
Meilleur encadrement des actions de lobbying. Xavier Timbaud.
Oui, aussi je voudrais apporter une nuance, on va dire, à l'argument d'Yves sur l'ISF et sur le fait que sa suppression ou la limitation de la base à laquelle il s'applique serait une bonne réponse à l'évaporation fiscale. Et alors j'avais peur que Dominique épuise le sujet, mais en fait il l'a pas tout à fait épuisé. Et donc je me permets de donner cet argument. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs parce que cet argument on le trouve, et je veux quand même le signaler parce que c'est très important, on le trouve sur le site de l'OCDE. Dans un sous-site du site de l'OCDE qui est spécifiquement dédié aux questions d'érosion des bases fiscales et de ce que l'OCDE appelle le profit shifting, le fait de déplacer les profits vers un endroit où il y aurait moins de taxes. C'est un projet, une activité de l'OCDE qui existe depuis 1989 et qui s'est accéléré ces dernières années, et qui en particulier a été grandement repris par la Commission européenne dans un ensemble de directives, et pas simplement une seule directive, un ensemble de directives qui vise à mettre en place les instruments pour lutter contre l'érosion des bases fiscales. Et un des arguments
repris
qui est
aussi dans beaucoup de sommets mondiaux, les G20 et
dont
autres.
On parle dans tous les G20 aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'argument principal qu'il y a sur la première page de ce site de l'OCDE, le problème, c'est que quand les États ont des réactions individuelles par rapport au problème d'évasion fiscale, la première chose qu'ils font, c'est de réduire les impôts. Or, en réduisant les impôts, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent à faire des distorsions dans leur fiscalité qui ne sont pas souhaitables et qui font qu'à la fin, le fait de ne pas lutter contre l'évasion fiscale conduit à augmenter les impôts et à produire une fiscalité qui est injuste, inefficace et injustifiable. Et l'exemple que nous a donné Yves, c'est précisément ça. C'est-à-dire, pourquoi on va taxer que l'immobilier ? Parce que l'immobilier est immobile. Comme son nom l'indique. Et on ne va pas taxer le capital financier, parce que le capital financier est mobile. Mais est-ce qu'il y a une autre raison, à part il est immobile, il est mobile, pour ne pas le taxer ? Est-ce qu'il y a une raison d'équité ? Est-ce qu'il y a une raison d'efficacité économique ? Eh bien non, probablement pas. Et d'ailleurs, si on regarde la taxation, on va se dire peut-être qu'une fiscalité raisonnable, attention, il ne s'agit pas d'avoir une fiscalité confiscatoire, mais une fiscalité raisonnable, y compris sur le capital financier, pourrait aider à modifier des comportements, par exemple, qui conduisent à l'instabilité financière, ou pourrait réduire des inégalités, ou pourrait compenser des taxations qui ne sont pas faites par ailleurs. Et il y a des tas d'arguments qui existent. Il y a des volumes entiers sur la taxation du capital qui permettent de dire, en fait, si, il faut taxer le capital. Contrairement à ce que certains disent. Et donc, quand on est conduit à ne pas le faire au nom d'un argument d'évaporation fiscale, en fait, on renie un certain nombre d'autres principes. Je m'excuse d'être un peu long, mais c'est extrêmement important. Oui. On renie d'autres principes et on arrive à des fiscalités qui sont inefficientes.
Mais alors, ce que vous dites, c'est parfait au niveau du principe. Et alors, je suis tout à fait d'accord à ce que dit aussi Attac sur le fait que l'évasion est l'enfant de la mondialisation. Je vous cite, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais je crois qu'il faut se méfier des points de vue généraux. Et alors moi, je suis très prudent par rapport à ce que dit l'OCDE. L'OCDE dit des choses qui sont exactes, mais nous sommes en France. Et il faut avoir en tête la situation de la France par rapport aux autres pays d'Europe. Nous sommes le pays qui taxons le plus. Donc attention, quand l'OCDE fait des recommandations, chaque pays doit l'entendre par rapport à sa situation propre. En France, nous taxons énormément le capital. Donc notre problème, c'est certainement pas de ne pas le taxer assez. Et quand Emmanuel Macron dit que le capital des entreprises, il faut arrêter de le taxer pour qu'il parte à l'étranger, je crois qu'il a raison, parce que la justification même sur le plan de l'équité où vous vous situez, c'est que le capital des entreprises, c'est le capital qui fait des emplois. On ne peut pas avoir d'emplois qualifiés et d'emplois avec des bons salaires aujourd'hui s'il n'y a pas d'investissement.
Xavier Timbaud, très vite,
il n'y aura pas d'investissement.
Très vite, parce que c'est vite, un débat important.
On peut avoir toutes les critiques qu'on veut sur la fiscalité du capital relativement à celle du travail. On peut même dire on taxe trop le capital en France. Moi, ça ne me dérange pas de dire ça. Mais à partir du moment où on dit, et d'ailleurs, si on continue à le taxer, tout va partir à l'étranger. Là, par contre, On n'est plus dans la justification d'une taxation excessive, on est dans l'enfant terrible de la mondialisation sur l'éclatement des systèmes sociaux et fiscaux et la disparition de la justice au nom de l'argument de mobilité-immobilité. Et ça, c'est pas acceptable. Oui, même en France.
Des milliers de millionnaires achètent des propriétés en France. Il vaut mieux leur faire payer quelque chose. Vous savez très bien, toute la Côte d'Azur appartient à des fortunes étrangères. La place Vendôme, la place des Vosges, ça appartient entièrement à des propriétaires étrangers qui payent leurs impôts à Londres et qui ont leur résidence secondaire en France. Alors taxons un peu plus leur résidence secondaire en France et arrêtons de faire fuir les capitaux qui ne sont pas là pour créer des emplois.
Dominique, puis-je
introduire un élément nouveau dans la discussion, c'est la taxation des transactions financières. Parce que là, on a parlé de la taxation du capital, mais il y a aussi un sujet qui est extrêmement important. Il y a une directive européenne en préparation, et d'ailleurs qui fait l'objet d'une coopération renforcée avec 11 pays. Et je crois que ça aussi, ça doit être mis dans la discussion. C'est-à-dire que contrairement à ce qui est dit, il y a des bonnes raisons de penser qu'une taxation des transactions financières peut être extrêmement efficace. D'ailleurs, la Commission européenne a fait une directive très forte et très subtile avec des principes. Pour une fois, je la défends, je suis souvent très critique, mais là, je la défends. Le principe de résidence, c'est-à-dire qu'on va taxer des titres en fonction du pays où réside l'entreprise émettrice, même si c'est une transaction, par exemple, sur Volkswagen qui se produit à Shanghai. Ça a été émis en Allemagne, donc c'est taxé. Et puis, il y a aussi le principe dit d'émission, c'est-à-dire savoir dans quelles conditions et quel type de titre a été émis pour fixer la règle de taxation. Et donc, je veux dire que tous les arguments de ceux qui disent, si vous taxez le capital, il va partir. Non, on sait faire. Il y a des principes de fiscalité. Je pense que vous les connaissez au moins aussi bien que moi, d'ailleurs, hein, qui peuvent être appliqués, qui permettent de limiter fortement l'évasion fiscale. Et donc, je conteste l'idée que, au motif que ça susciterait de l'évasion fiscale, alors on doit baisser la taxation du capital. Ça me paraît être difficilement acceptable.
Ne restons pas que sur ce point-là, s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord quand même, tous les trois, et on parlera des autres programmes, hein, vous n'avez cité que celui de Fillon et de Macron, je voudrais connaître les autres. Je voudrais juste un dimbo quand même. On a progressé, vous citez les uns et les autres, l'OCDE qui a maintenant un bureau dédié qui est tout de même assez actif. On a parlé des mesures adoptées par l'ensemble des pays de l'Union européenne, cela vous paraît encore... Et on a parlé de la loi Sapin 2, contestée sur certains un point, mais qui existe. Avez-vous l'impression qu'on est allé assez loin ? Il y a un progrès.
Il y a un progrès. Des chiffres récents de l'OCDE indiquent qu'on n'a jamais... Le montant total des impôts perçus dans l'OCDE n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, la fiscalité ne régresse pas.
Pas assez de moyens, peut-être.
On a progressé, c'est indubitable. Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a une prise de conscience aussi de la société, sous l'influence d'ailleurs, je dirais, la pression de l'opinion publique à la suite
des
scandales.
Pression citoyenne, absolument.
Pression citoyenne, mais aussi grâce, vous l'avez mentionné, ce problème important, c'est la question des lanceurs d'alerte. Il faut dire que là aussi, il y a une bagarre qui est en train d'être menée, qui est de défendre les lanceurs d'alerte, leur donner un statut, une protection. Or, la loi Sapin avait au départ quelques dispositions intéressantes qui ont été censurées par le Sénat. Sénat lui-même, je pense, sous la pression d'un certain nombre de lobbies bancaires et autres qui refusent évidemment cette idée d'avoir des lanceurs d'alerte qui évidemment peuvent leur poser des problèmes. On le voit bien avec un certain nombre de scandales comme par exemple LuxLeaks. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Et si on doit faire des progrès dans le futur, c'est d'améliorer le statut des lanceurs d'alerte qui jouent un rôle, je pense, extrêmement important. Et or, malheureusement, un certain nombre d'institutions, encore une fois, comme le Conseil constitutionnel, préfèrent mettre en avant et défendre le secret des affaires, donc l'opacité d'une certaine façon, et refusent de donner toute l'importance qu'on devrait donner à, par exemple, à des lanceurs d'alerte et au reporting public, qui est un moyen d'organiser une transparence que l'OCDE d'ailleurs défend. Hein,
donc leur donner un statut juridique et les protéger réellement.
Et aussi de permettre la diffusion régulière d'informations sur les opérations que font les entreprises et les banques transnationales à l'étranger et notamment dans les paradis fiscaux. Ce qui est un moyen de savoir où se situe précisément l'évasion fiscale.
Les autres candidats, Jean-Luc Mélenchon l'a fait savoir très tôt d'ailleurs, faire payer les Français à l'étranger. Hein, c'est un thème sur lequel il faut revenir. Enfin, vous l'avez d'ailleurs déjà abordé, Yves Jacquin Dupeyre.
Très volontiers, parce qu'on a
très
parlé
rapidement
de deux candidats.
Aussi pour
Mélenchon a une proposition d'impôt universel sur la nationalité. Donc, il répond. Il répond un peu à sa manière à la question qu'on se posait. Ce qui est assez amusant, c'est de rappeler que c'est une proposition qu'avait fait en son temps Nicolas Sarkozy et qui lui a peut-être coûter sa réélection parce que les Français de l'étranger sont extrêmement attentifs à leur fiscalité.
Et sensibles.
Et ils représentent aujourd'hui un lobby puissant, c'est 1,5% de la population française, avec une grande mobilisation sous l'effet des réseaux sociaux. C'est devenu un lobby très fort. Alors ça pose un petit problème. Et puis, sur ce projet de taxation des Français de l'étranger, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, à condition de respecter ce que j'ai appelé la pression fiscale maximum supportable. Sinon, les Français feront comme les Américains. Si la France fait comme les États-Unis, ils se mettront à renoncer à leur nationalité française. Et bien sûr, ce n'est pas le but. Et puis sinon, on a deux propositions.
Benoît Hamon, très vite, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin.
Benoît Hamon, qui défend comme vous le reporting pays par pays, c'est à la fois une bonne idée,
mais pour identifier les activités des filiales.
Pour forcer les entreprises à déclarer beaucoup plus. Mais attention à ne pas affaiblir les entreprises françaises par rapport aux autres. Il propose aussi un impôt européen sur les entreprises du GAFA. Et ça, c'est une très bonne idée, parce qu'on peut faire des choses au niveau européen qu'on ne peut pas faire aujourd'hui au niveau français. Je pense qu'il y a une très très bonne idée de faire une taxation, taxation Internet au niveau européen. Et dernier point, Marine Le Pen, qui a une proposition technique qui n'est pas absurde, c'est de vouloir dénoncer les conventions fiscales conclues avec les pays du Golfe. Et il faut reconnaître
extrêmement accommodante.
On a des conventions fiscales extraordinaires, par exemple avec le Qatar. Le Qatar ne paye aucun impôt en aucun cas en France, en fait. Voilà.
Dominique Pignon, vous êtes d'accord avec cette mesure de Marine Le Pen ?
Bien sûr. Et simplement... La proposition de la taxe Google, le problème, c'est qu'elle a été censurée par une de nos institutions.
Qui vous agace, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qui aura la prééminence ? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel ou les institutions européennes, si demain, elles décident de mettre en place ces taxes ?
Non, mais si on descend à la technique fiscale, il y a d'autres manières de faire. C'est qu'il faut comprendre qu'on a des contraintes juridiques très fortes. Donc, ça rend le sujet difficile, ça ne rend pas le sujet impossible. Donc, la copie du gouvernement a pu être mauvaise et a pu être retoquée par le Conseil constitutionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de solution. Et surtout, si on se situe à un niveau européen, on peut faire beaucoup de choses contre le GAFA si on est au niveau européen.
J'espère que vous avez raison.
Affaire donc de pression citoyenne, hein, on l'a dit. Affaire, bien sûr, de volonté politique aussi, peut-être en mettant davantage de moyens à disposition, alors, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou si l'on reste en France
quand
aussi.
Quand on regarde les effectifs, le fameux pôle financier, ce qu'on appelle les services de contrôle fiscal, il y a eu 3000 suppressions de postes à équivalent temps plein. Hein. Donc, il y a un vrai souci. Alors, il n'y a pas que les moyens humains, parce que maintenant, on a des moyens informatiques qui sont extrêmement puissants. Mais justement, quand on regarde les moyens informatique et matériel donné aux services fiscaux, ils n'ont pas augmenté. Ils n'ont pas augmenté sensiblement. Et par exemple, je crois que vous le dites dans votre livre d'ailleurs, il faut utiliser le big data, il faut utiliser les informations, les techniques modernes. Or, je pense que l'administration fiscale en France
n'est pas
dotée d'une manière suffisante pour lutter efficacement contre ce type de...
Dernier mot avec
sur ce point
Xavier,
de l'efficacité de la lutte contre l'évasion fiscale, bien sûr, il y a une question d'effectifs, bien sûr, il y a une question de technologie, de big data et d'information, mais avant tout, ce qu'il faut, c'est des cadres juridiques et des cadres de coopération internationale qui permettent de mettre ça en œuvre. Yves citait la proposition de Marine Le Pen sur le fait de dénoncer des conventions fiscales. Mais regardez ce qu'il va y avoir dans la directive européenne qui sera appliquée à partir de 2019. Il y a, par exemple, le fait qu'il faut remettre en cause toutes les conventions fiscales qui sont signées, qui ne sont pas compatibles avec le principe de fiscalité juste. Donc, ce n'est pas une proposition de Marine Le Pen. Tout le monde s'en est rendu compte et tout le monde a mis ça sur l'agenda. Mais s'il n'y a pas de contexte juridique, il n'y aura pas d'avancée. Et ce contexte juridique, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas national, il est de coopération internationale. Et là-dessus, il y a un progrès phénoménal qui a été accompli par l'OCDE et la Commission européenne sur ces questions.
On résume, ça va mieux, mais il reste beaucoup à faire. Désolé, vous reviendrez. C'est promis, c'est un énorme sujet. On passe à vos chiffres. Avec Marie Bellan, journaliste aux Échos.
Oui.
Votre chiffre, Marie.
Alors, à l'occasion de la journée de la femme, j'ai choisi un chiffre sur ce sujet qui est 20%. Mais alors, ce n'est pas les 20% auxquels vous pensez peut-être, qui est souvent la proportion que l'on donne pour mesurer les écarts de salaire entre hommes et femmes. Non, j'ai choisi un 20% un peu plus optimiste. C'est la part des jeunes femmes qui accèdent à un emploi cadre 3 ans après leur entrée sur le marché du travail. Donc, ce chiffre, il est tiré d'une publication de l'INSEE qui a été publiée cette semaine à l'occasion de la journée de la femme. Il est intéressant quand c'était exactement la même proportion que celle des jeunes hommes, eux aussi, entrant sur le marché de l'emploi ou 3 ans après leur entrée sur le marché de l'emploi. Cela signifie que sur 100 jeunes cadres, 49 sont des femmes et 51 sont des hommes. Alors cette parité est une grande première dans l'histoire de l'insertion professionnelle des jeunes, parce que jamais les femmes n'avaient atteint ces positions professionnelles dans d'aussi grandes proportions. Cette féminisation de l'encadrement est surtout vraie dans la fonction publique, il faut le dire, et beaucoup moins dans les métiers d'ingénieur et de cadre technique, par exemple. Alors comment expliquer cette évolution ? D'abord par la hausse du capital scolaire, hein, si on peut parler comme ça des femmes. Alors si le niveau des diplômes des jeunes générations s'est globalement accru pour les hommes comme pour les femmes, mais la part des femmes au plus haut niveau de formation a considérablement augmenté. Je donne quelques chiffres, mais dans les grandes écoles, 37% des diplômés sont des jeunes femmes. Je parle de la génération diplômée en 2010, là. Et elles sont 31% parmi les diplômés de master, 62% parmi les jeunes docteurs. Alors, qu'en est-il côté salaire? Parlons quand même de ce sujet. Alors, un rapprochement est indéniablement à l'œuvre. Et le renforcement de la législation sur les accords d'entreprise en faveur de l'égalité salariale a eu des effets, c'est certain. Pour les jeunes cadres notamment, le salaire médian des femmes équivalait en 2013 à 93% du salaire médian des hommes, contre 87% en 2001. Il y a un vrai progrès, ça c'est indéniable. Et c'est d'ailleurs parmi les cadres supérieurs que l'écart est le plus ténu. Mais cette réduction des salaires a d'autres explications, et notamment l'essoufflement du salaire des hommes sur la période 2001-2013, qui est la période de référence étudiée. Alors, le ralentissement de la croissance économique a effectivement pesé sur les salaires d'embauche de la dernière génération, et cette baisse des salaires a affecté bien plus fortement les salaires des hommes que des femmes. On peut donc conclure que c'est en réalité la crise économique, c'est un peu triste mais c'est comme ça, plus que la soudaine conversion des employeurs aux vertus de l'égalité professionnelle, qui serait la principale cause de la convergence salariale observée ces dernières années.
Merci beaucoup Marie Ballant, je suis bien malheureuse car j'avais demandé des chiffres concernant effectivement cette journée pour le travail des femmes, les questions économiques autour des femmes à mes trois invités. Promis, juré, on le fait la semaine prochaine, c'était trop important. Mais notre sujet l'était aussi. Pierre Cotillon, Emmanuel Morse-Duncan avec Laetitia Koa pour la réalisation. Laurence Genepin, préparation, documentation, la réconciliation fiscale. D'Yves Jacquin-Deperche et Odile Jacob, un rapport également du Conseil environnemental et social à consulter. Merci à tous.